Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous continuons nos deux séries. D'abord, en compagnie de notre invité Claude, Yann parlera de ce qu'on appelle les béatitudes, ces paroles de Jésus qui se trouvent au début du sermon sur la montagne. Ensuite, Guy nous apportera une courte méditation ayant pour titre « Paroles de réconfort du prophète Ésaïe ».
Lors de notre dernière émission, Claude a fait une introduction sur les béatitudes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la première bénédiction contenue dans les béatitudes. Elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 3. Et notre lectrice Sandra va tout de suite la lire.
Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient.
Merci Sandra. À présent, le moment est venu d'accueillir notre invité, Claude. Bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Alors, la dernière fois, nous avons appris que les béatitudes abordent des questions importantes. Qui peut se considérer béni ou heureux? En quoi consiste le meilleur des bonheurs ou la plus précieuse des bénédictions? Nous avons également appris que chaque béatitude consiste en une qualité ou un état personnel à laquelle une promesse est attachée.
En ce qui concerne la première béatitude, la qualité ou l'état personnel en question, et la pauvreté intérieure. Pour citer plus exactement le verset dont nous parlons, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres ».
Oui, aujourd'hui, nous allons surtout réfléchir à la signification de la pauvreté spirituelle.
Comment donc définir cette qualité?
Pour commencer, il est important de souligner qu'il s'agit de pauvreté spirituelle et non pas de pauvreté matérielle. Ce n'est pas une question de manque de moyens matériels. Il n'est pas pertinent de parler de richesse ou de bien dans ce contexte, car Jésus vise quelque chose de plus profond, de plus important encore, la condition de notre cœur. Ainsi, une personne riche sur le plan financier peut en même temps se reconnaître spirituellement pauvre. Il est vrai que les richesses matérielles peuvent souvent empêcher les gens de voir qu'ils sont spirituellement pauvres. Mais ce n'est pas toujours le cas.
Merci pour ces précisions. Pouvez-vous à présent nous donner une définition de la pauvreté spirituelle?
Oui, en effet, quelqu'un de spirituellement pauvre est quelqu'un qui a besoin de Dieu.
Et n'avons-nous pas tous besoin de Dieu?
Effectivement. Et c'est pourquoi Jésus précise que la bénédiction et la promesse sont pour ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Beaucoup de personnes pensent ne pas avoir besoin de Dieu. Elles sont trop fières pour admettre, ou bien aveuglées, elles ne voient pas leur véritable condition spirituelle. En fait, le premier pas vers une vie vraiment heureuse et bénie, c'est reconnaître que nous avons besoin de Jésus et le lui dire. C'est pour cette raison que cette béatitude est la première dans la liste. Elle représente la porte d'entrée, la seule pour recevoir la véritable bénédiction de Dieu.
Merci Claude. Mais en quoi avons-nous besoin de Dieu? En quoi consiste notre pauvreté spirituelle?
Nous avons besoin de Dieu en toutes choses. Cependant, le péché est au cœur du problème et il représente une impasse sans issue. À moins que Dieu n'intervienne pour nous sauver. Le cœur humain tend inlassablement vers le mal. Nous commettons tous des fautes, parce que nous avons tous un cœur mauvais. Le péché nous appauvrit, car c'est à cause de lui que nous sommes séparés de Dieu et privés de ses bénédictions spirituelles. Le péché se dresse sur notre route comme un obstacle infranchissable qui nous empêche de trouver le chemin, nous reconduisant à Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour surmonter, contourner ou enlever cet obstacle. Certains pensent pouvoir franchir cet obstacle par leurs propres efforts, par une vie de bonnes œuvres, une vie pieuse, une vie juste et honnête. Ce sont de bonnes choses, mais malheureusement, elles ne suffisent pas pour effacer ou racheter notre péché. C'est comme si on voulait déplacer une montagne, seul, avec une pelle et un seau pour unique outil. Cela relève de l'impossible. Devant l'ampleur et la nature du problème, nous sommes faibles et impuissants. L'apôtre Paul dépeint la situation à sa façon en affirmant, dans sa lettre à l'église d'Éphèse, que nous sommes tous morts à cause de nos péchés. Un mort ne peut rien faire seul pour se remettre à vivre.
Notre situation est vraiment désespérée.
Elle l'est, effectivement, jusqu'au moment où nous le reconnaissons et que dans notre faiblesse, nous nous tournons vers Jésus. Nous sommes pauvres spirituellement, mais Jésus est riche dans sa grâce. Il est prêt à nous accorder ses bénédictions. Nous sommes faibles et impuissants. Nous ne pouvons rien faire devant l'ampleur du problème. Mais Jésus est puissant. Il a tout fait pour nous sortir de l'impasse et pour nous enlever l'obstacle qui nous séparait de Dieu. Il est la source de tout véritable bonheur.
Quelle bonne nouvelle!
C'est vrai, Yann. Chers amis, reconnaissez-vous votre pauvreté spirituelle? Êtes-vous piégé par des conduites mauvaises qui répandent la souffrance? Ou êtes-vous esclave d'addictions diverses qui vous plongent dans le malheur? Ployez-vous sous un lourd fardeau de honte et de culpabilité? La première démarche à faire, c'est reconnaître que vous avez besoin de Jésus, c'est vous tourner vers lui en quête de sa miséricorde et son pardon. Lui seul peut effacer le péché, lui seul peut nous purifier de toutes nos fautes et nous déclarer innocents devant le tribunal divin. Chers amis, êtes-vous tombés dans l'étau de l'idolâtrie, de la pratique de la sorcellerie ou de la crainte des superstitions? Êtes-vous tombé sous l'influence d'esprits mauvais? Là encore, la première démarche à faire, c'est reconnaître que vous avez besoin de Jésus et vous tourner vers lui en quête de sa miséricorde et de son pardon. Chers amis, menez-vous une vie plutôt heureuse? Réussissez-vous vos projets? Vous épanouissez-vous dans les relations sentimentales heureuses? Ne vous y trompez pas. Vous avez aussi besoin de Jésus, car vous êtes tout aussi pauvre spirituellement que les autres. Car tout le monde, sans exception, a un cœur de pécheur. L'orgueil de celui qui pense ne pas avoir besoin de Jésus est justement né dans le cœur qui tend inlassablement vers le mal. Un cœur qui refuse de donner à Dieu la place et l'honneur qui lui reviennent. Aujourd'hui, reconnaissons donc notre pauvreté spirituelle.
Merci Claude pour cet enseignement. Comment voulez-vous conclure notre discussion?
Avec une dernière illustration. Imaginez que le président du pays s'est construit un nouveau palais luxueux, entouré de grands jardins, avec de nombreuses fontaines et des jets d'eau. Le président annonce qu'il va ouvrir son palais au public et que tous ceux qui viendront pourront assister à un grand banquet avec des plats rares et succulents. Vous décidez d'y aller, mais arrivé au portail, vous découvrez qu'il faut payer pour y entrer et le prix est exorbitant, si excessif qu'il faudrait que vous travailliez des centaines d'années pour mettre suffisamment d'argent de côté. Triste et déçu, vous faites demi-tour pour rentrer chez vous et, soudain, vous vous trouvez nez à nez avec un jeune homme en costume. Vous l'avez vu sur des affiches. Il s'agit du fils du président. Que faire? Vous osez lui adresser la parole. « Monsieur, je suis pauvre, mais je voudrais entrer dans le palais. Pouvez-vous m'aider ?» À votre grand étonnement, il vous répond. « Bien sûr, je vais moi-même payer votre billet. Connaître Dieu, c'est jouir du véritable bonheur, de la véritable bénédiction. Mais nous ne pouvons ni acheter, ni mériter, ni gagner cette bénédiction par nos propres efforts. Il faut simplement admettre notre pauvreté spirituelle et nous tourner vers Jésus qui a payé pour que nous ayons une place auprès de Dieu et qui, dans sa grâce, peut nous donner cette bénédiction précieuse.
Merci Claude. La prochaine fois, nous réfléchirons ensemble sur la deuxième partie du verset pour essayer de comprendre le sens de la bénédiction. Le royaume des cieux leur appartient.
À présent, c'est le moment de passer à notre courte méditation biblique sur le thème « Paroles de réconfort » dans le livre d'Ésaïe. Dans un instant, Guy nous fera part de ses réflexions. Mais avant, Sandra va nous lire Ésaïe au chapitre 40, les versets 25 et 26.
À qui voudriez-vous me comparer? Qui serait mon égal? Demande le Dieu saint. Levez bien haut les yeux et regardez. Qui a créé ces astres?
Bonjour, chers amis. Êtes-vous accablés d'épreuves? Vous sentez-vous piégé par des circonstances difficiles ou dépassé par des problèmes sans fin? Le découragement, voire le désespoir, nous guette et la peur de l'avenir peut nous paralyser. Le prophète Ésaïe a un conseil à nous donner, un conseil qui, à première vue, paraît étrange, mais qui, après réflexion, est bien porteur de réconfort. Le prophète nous demande de sortir de nos maisons, de nuit, pour regarder les étoiles qui scintillent dans le ciel obscur. En quoi ce geste peut-il être bienfaisant? En regardant les étoiles, nos pensées s'orientent vers celui qui les a créées, le Dieu incomparable. En regardant les étoiles, notre cœur est rempli d'une impression de la grandeur, de la beauté et de la majesté de l'univers. Et nous pouvons en conclure que celui qui a créé l'univers est encore plus grand, bien plus beau et majestueux que l'étendue céleste. De surcroît, pour créer les vastes étendues des cieux avec les millions, si ce n'est les milliards d'étoiles, il faut être vraiment puissant. Oui, les étoiles nous rappellent que Dieu est le Tout-Puissant et sa puissance est incomparable. Toutefois, le savez-vous, Dieu s'intéresse plus aux hommes et aux femmes qu'aux étoiles. De même, Dieu déploie sa toute-puissance pour créer les étoiles et pour les fixer dans le ciel. Il déploie aussi sa toute-puissance pour soutenir et pour secourir les hommes et les femmes. De même que Dieu connaît toutes les étoiles du ciel, il vous connaît aussi personnellement, profondément. Il sait de quoi vous souffrez. Il connaît toutes les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Oui, sortir la nuit pour regarder les étoiles est un geste très simple qui ne nous coûte rien. Pourtant, c'est un geste qui peut nous faire du bien, car il nous rappelle des vérités importantes. Il oriente notre cœur vers le Dieu incomparable. Ce geste nous met en contact avec celui qui peut nous fortifier et nous encourager, qui peut nous relever et nous aider à aller de l'avant, avec celui qui peut nous secourir et nous sauver.
Merci Guy pour ces paroles encourageantes. Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour la suite de nos deux séries. En attendant de vous retrouver, chers amis, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.